Avez-vous l'intention de rester chez vous ce week-end suite à l'appel du gouvernement du Québec? Tout de suite, nous rejoignons le docteur Amir Kadir, qui est infectiologue. Bonjour, docteur Kadir.
Bonjour, Madame Maréchal.
Est-ce rendu assez grave, à ce point grave, là, en termes de contagion COVID, qu'on doive effectivement en appeler à une sorte de reconfinement des citoyens du Québec, d'après vous, docteur Kadir?
Je dirais que si on veut pas qu'on se rende là, oui. On est là parce que malgré plusieurs tentatives de régler la chose autrement, ça fait 3 semaines que les chiffres montent sans montrer de signes de répit. Donc c'est là qu'on en est. Puis, de toute façon, je veux dire, on ne demande pas la lune. Là, on a déjà l'expérience de ça au mois de mars et avril. Et là, il y a beaucoup plus de flexibilité dans ce qui est proposé. Je pense que ce qui est proposé s'inspire un peu du modèle suédois pour ce que ça a de mieux. C'est-à-dire que il me semble qu'on doit doit s'inspirer des meilleures pratiques dans chaque modèle qui n'est pas parfait, parce que la Suède, comme le Québec, a à peu près les mêmes chiffres en termes de mortalité par million d'habitants après 6 mois. Donc, mais il y a des éléments de la Suède qui ont permis d'atténuer les conséquences sur certains secteurs, les écoles, les cafés, les petits commerces et tout ça. Donc, et là, qu'est-ce qui a fait la force du modèle suédois? C'est la collaboration du monde. C'est que les gens, même s'il n'y a pas eu d'imposition de règles mandatoires, mais ont respecté les consignes, que ça soit le travail à la maison, de réduire les transports, de moins se fréquenter, de mettre... Donc, disons que les gens ont eux-mêmes adopté des comportements qui ont permis une distanciation sociale.
Puis ils semblent plus disciplinés que les Québécois, donc c'est ce que vous nous dites.
Ben, écoutez, Madame Maréchal, moi et vous, en tout cas, moi, je pense qu'on est quand même assez disciplinés. J'entendais ce matin sur au moins 3 stations de radio qu'il y avait des gens qui... D'ailleurs, il y avait des sondages radio, là, et les gens qui faisaient des commentaires... expliquer qu'ils avaient obéi en quelque sorte. Moi-même, ma famille, on a annulé un événement qu'on avait prévu dimanche. Puis je pense que des milliers de Québécois ont fait pareil. Là, on peut s'adapter.
Ouais, mais l'élément qui revient beaucoup, puis vous avez parlé du taux de mortalité, notamment dans le modèle suédois. Là, si on regarde justement les mortalités, les décès, puis on s'en plaindra pas que le monde meure pas autant qu'avant, mais effectivement, c'est un argument que vont mettre de l'avant beaucoup de gens qui disent « Hey, les mesures sont encore trop sévères. Pourquoi on nous, d'une certaine façon, reconfine alors que finalement, il y a 2 jours, il n'y avait pas de décès. Avant-hier, il y en a eu 2. Hier, il y en a eu 0. » Donc, les gens regardent le nombre de personnes qui meurent de la COVID puis ils se disent finalement, il n'y a personne qui meurt, sinon celles qui seraient peut-être mortes de toute façon à cause de leur grand âge. Pourquoi reconfiner tout le monde? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont de cet avis, Dr Kadir?
Je répète d'abord que le modèle suédois est loin d'être parfait, comme le modèle québécois. On n'est pas dans les sociétés qui se sont le mieux débrouillées.
Oui, mais sur la question de la mortalité, là, les gens disent, personne, on a plus de morts, là, donc on pourrait tous se calmer avec les mesures.
Mais c'est parce qu'on n'a plus de morts, parce qu'on a instauré les mesures. Et on n'a plus de morts parce que l'été, tout le monde est sorti, on n'était pas dans des endroits confinés. On n'avait plus de morts parce qu'il n'y avait pas d'école pour transmettre comme des agents de transmission. On n'avait plus de morts parce que, bon, on a pris des mesures de précaution dans les CHSLD, notamment, bon, ouvrir les fenêtres lorsque c'est possible durant l'été. Là, maintenant, on rentre dans une période où ça va être plus compliqué, tout ça. On sait qu'une partie de nos CHSLD, maisons pour personnes âgées, ne sont pas bien ventilées. Nos écoliers vont entrer dans des écoles, surtout des écoles secondaires, dont à peu près la moitié n'ont pas de ventilation adéquate. Plusieurs écoles secondaires, dans les écoles secondaires, on n'a pas de fenêtre qu'on peut ouvrir. Ensuite, on voit que la dynamique de transmission, c'est surtout dans les petites réunions, que ça soit dans les cafés, que ça soit dans les maisons, lorsque beaucoup de gens se mettent les uns en contact avec les autres. Fait que si on fait tout ça, sans prendre de mesures particulières, ben on va se ramasser avec les mêmes problèmes, les mêmes morts. Donc, est-ce qu'on veut attendre qu'on ait des morts pour prendre des mesures? Je pense que si on demande la question, c'est un peu y répondre.
Oui, exactement. Mais c'est ce que beaucoup de gens estiment un peu déraisonnable. Quand ils regardent ça, ils se disent, ben là, on va nous reconfiner. On nous demande de nous tenir tranquilles, d'annuler nos parties de l'Action de grâce. Vous allez fêter Noël si on est chanceux, nous dit le ministre de la Santé. C'est vrai que ça fait beaucoup réagir, là. Les gens se disent, ma foi, combien de temps ça va durer, tout ça, là?
C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je pense qu'il n'y aura pas de facile, il n'y a pas de raccourci. Le vaccin, moi j'ai espoir comme tout le monde que ça soit le plus rapidement possible, mais on ne peut pas compter là-dessus, dire « Ah, c'est une certitude parce que M. Trump l'a dit, n'est-ce pas? » Donc, on est mieux de prendre des mesures pour pas aggraver notre situation, puis avoir la flexibilité qu'on a. La flexibilité qu'on a permet, par exemple, à deux sœurs qui veulent aller en Abitibi, je crois, voir leur mère à l'occasion de sa fête, leur mère qu'elles n'ont pas vue depuis le mois de mars, ben ils vont le faire, mais ils vont le faire de quelle manière? Ils ont des campeurs, ils vont être à l'extérieur, puis ils vont faire leur activité à l'extérieur, mais ça les empêche pas d'y aller. La mesure actuelle proposée par le gouvernement n'est pas aussi restrictive qu'au mois de mars.
Donc, ça reste une recommandation, là.
Oui, je comprends. C'est une recommandation. Donc, ça permet une certaine flexibilité. Mm-hmm. Donc, pour que ça en reste là, je pense, Madame Maréchal, la meilleure attitude, c'est que vraiment, on collabore tout le monde et on fasse ça de bas en haut. C'est un peu ça, hein? Il y a une possibilité maintenant que les gens se prennent en main eux-mêmes, de manière responsable, et que ce ne soit pas le gouvernement qui impose des choses. Mais pour ça, il faut un haut niveau de collaboration. Puis je pense qu'on est capable de cette solidarité-là.
Mais vous êtes d'accord avec Christian Dubé, le ministre de la Santé, docteur Kadir? Vous êtes d'accord avec Christian Dubé qui dit on va frapper un mur si on ne limite pas nos contacts?
Absolument, absolument. Moi, je pense que oui. D'ailleurs, on le voit ailleurs, là. La France est débordée déjà. Plusieurs pays voient le nombre exploser. C'est sûr que le virus, pour le moment, ne semble pas aussi causer des conséquences aussi graves en termes de soins intensifs ou de mortalité. Mais on ne peut pas compter là-dessus. On peut pas dire « Ah, ça semble comme ça, donc allons-y, puis laissons-nous aller ». Je pense qu'on est mieux de profiter de cet état de choses pour atténuer les méfaits et de faire toutes les bonnes choses qu'on est capable de faire. Et je rappelle, il y a de la flexibilité. Il n'y a pas comme une espèce de fermeture absolue.
Oui, puis là, ce qu'on voit, c'est quand même une augmentation du nombre d'hospitalisations et d'hospitalisations aux soins intensifs. Là. Oui. Ça reste des petits chiffres, mais quand même, on voit... Vous, à Lagardeur, en fait, là, sur le terrain, vous-même, là, comme médecin, est-ce que vous commencez à le ressentir, là, qu'il y a à nouveau plus de monde à l'hôpital?
Oui, à la fois à l'urgence, à l'hospitalisation et aux soins. Je ne vous donnerai pas les chiffres parce que je ne suis pas supposé, mais on en est là.
OK. Ben, merci beaucoup, Dr Kadir.
Merci, Mme Maréchal.
Merci à vous. Je vous laisse retourner justement parce que vous en avez des mains pleines. Dr Kadir, prenez le temps, là, mais vous avez entendu, là, ça déborde. Là. Ça recommence, ça repart, puis c'est à l'hôpital qu'il y a le problème. Puis c'est aussi pour ça qu'on nous demande tous, restez chez vous, limitez vos contacts. Moi, ma question, allez-vous le faire? Parce que visiblement, il y a encore des poches où ça veut rien savoir, puis ça écoute pas, puis c'est tanné, puis c'est écœuré. Puis je sais que ceux qui m'appellent, vous le faites. J'aimerais ça que ceux qui le font pas m'appeliez aussi. On va jaser de pourquoi ça vous tente pas de le faire, finalement. Quand je dis ça, c'est faire quoi? Ben, restez tranquille 5 minutes, là, qu'on laisse passer ce maudit virus, puis qu'on passe à d'autres choses, qu'on est tanné. 514-790-9850, 1-866-790-9850. On va quand même se mettre de la musique parce que c'est vendredi. Alors, le mot d'ordre, c'est plutôt de rester chez vous. Lucie, bonjour. Allez-vous écouter ce mot d'ordre du gouvernement?
Totalement. Écoutez, moi, je fais partie des gens que ça tente pas d'annuler les rencontres, mais hier, ce soir, on avait un couple qu'on recevait. Demain, mon neveu avec sa conjointe. Et hier, j'ai avisé comme quoi, malheureusement, on devait écouter les consignes du gouvernement parce que moi, je suis une ex... je suis pas une ex, mais une retraitée du réseau de la santé. Et c'est pas une blague. Ce que Dr Kadir a dit tantôt, là, c'est vrai 100%. Une chose qu'il a oublié de dire, quand vous mentionniez que il y avait moins de morts, pourquoi quand même demander ça? Il faut absolument, parce que faut penser que nos infirmières, il y a du personnel qui sont redirigés ailleurs pour faire, entre autres, le dépistage. Alors, il manque de personnel. Il ne faut pas qu'il y ait de bris de service parce qu'on a des gens contaminés qui s'en vont à l'urgence et qui sont hospitalisés après aux soins intensifs. Mmh. Alors, moi, là, le message que je veux passer là, à nos Québécois, on sait à date qu'ils ont été très bons à l'automne, au printemps, mais on doit respecter les consignes du gouvernement. C'est une question d'urgence sanitaire. Et si on veut pas être reconfiné et avoir un impact économique, même si ça ne tente pas, même si on est un peu triste de ne pas voir nos familles. Moi, si vous saviez comment ça m'attriste de ne pas recevoir ce soir puis demain, mais il faut le faire pour nous tous et nos parents. Mais vraiment, là, on va tellement s'aider.
Alors, mon Dieu, Lucie, vous êtes tellement bonne. Je vous donne une job à la direction de la santé publique, moi, là. C'est bien clair, votre affaire.
J'attends justement de...
Vous attendez une job, vous attendez qu'ils vous appellent, vous allez attendre longtemps.
Non, j'attends de terminer des rénaux pour justement communiquer avec eux parce que, non, il faut donner même un message aux retraités. Il faut retourner sur le terrain pour aider nos consoeurs et confrères parce que vraiment, mais l'idée là, c'est si les Québécois respectent les consignes, restez à la maison. Écoutez M. Dubé. Écoutez M. Legault.
Écoutez Lucie. Écoutons Lucie, surtout. Hey, merci. Écoutez, c'est ça. Merci beaucoup, Lucie. Mon Dieu, qu'elle est tellement bonne. Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous en pensez quoi? Resterez-vous chez vous? Allez-vous annuler vos activités prévues ce week-end? Peut-être même jusqu'à l'Action de grâce, disait le ministre de la Santé.
Moi, je reviens tout le temps à... C'est parce qu'on s'est déjà parlé en début de conflit que... Ouais. La dernière fois qu'on a eu quelque chose de mondial, ça s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. La guerre mondiale a duré de 1939-1945, puis la France a été occupée combien de temps par les Allemands? Mm-hmm. Nous autres, ça fait juste 6 mois qu'on est supposément avec des petits règlements avec du gros beau soleil.
On est plus capable.
Le monde se plaint. Ouais. Donc, personne ne fait de sacrifice. Et tout le monde qui a vu le film « Le soldat Ryan mm-hmm. », ben, les jeunes qui étaient dans les péniches de débarquement, qu'ils entendaient siffler les balles avant que les portes rouvrent, ils en ont fait un sacrifice ultime pour qu'on soit libre aujourd'hui.
Ouais. Merci, donc, Daniel. Savez-vous quoi? Il y a tellement de monde, là. Merci de votre commentaire. Il y a tellement de monde qui veut intervenir. On va poursuivre là-dessus après les nouvelles. Je vais vous demander si, effectivement, vous allez limiter vos contacts. C'est quand même pas rien. On assiste donc à un appel à un certain reconfinement. C'est sûr que Lucie me dit comment peut-on respecter les consignes, elles sont données puis elles changent tout le temps. Ben dites-moi ce que vous en pensez après les nouvelles, on revient ensemble. Alors nous allons poursuivre avec les commentaires de nos auditeurs qui vont répondre à cette question. Je vous demandais si vous aviez l'intention de rester chez vous en fin de semaine et pour les semaines qui viennent, en tout cas au moins jusqu'à l'Action de grâce, nous a dit hier Christian Dubé. Monsieur Legault l'a répété aussi, premier ministre du Québec bien sûr, qui nous dit que c'est important parce que gros bon sens oblige, sinon on va se retrouver à reconfiner tout le monde, ce qu'on voudrait vraiment pas, puis que c'est important que les activités essentielles demeurent. Voici
la
François Legault.
La dernière affaire que je veux faire, c'est d'empêcher les enfants d'aller à l'école, parce que là, il y a d'autres sortes de conséquences très graves. Même chose pour les entreprises. Puis bien honnêtement, si demain matin on fermait tout, mais que les gens continuaient à faire des parties chez eux, puis de se transmettre le virus, on n'aurait rien réglé.
Voilà. Le problème, on l'a compris, c'est les parties à la maison, c'est les rassemblements familiaux, c'est aussi quand on se rejoint tout un groupe et qu'on va faire, qu'on va célébrer, soit dans un bar, dans un restaurant. Et là, je vais demander à François de nous dire s'il a l'intention, lui, de suivre le mot d'ordre du premier ministre. Bonjour, François.
Oui, je veux suivre l'ordre du premier ministre, sauf que les magasins vont être ouverts, les brasseries vont être ouvertes.
Ouais.
Tout va être ouvert.
Donc?
Ça ne servira pas à grand-chose si on coupe tout. Parce que tout le monde va se ramasser dans des centres d'achat, mm-hmm. dans des marchés aux puces. Puis on va frapper le mur pareil.
Oui. OK. Merci, François. Merci bien. Michel, vous avez l'intention de faire quoi, vous?
Bonjour, Isabelle. Moi, j'ai tout annulé, évidemment. L'anniversaire de mon fils à Gatineau, Québec des billets, les couleurs. Moi, je dis, si on en fait un peu plus, il n'y a personne qui va en mourir. Et si on en fait un peu moins, il y a des gens qui vont en mourir. Mm-hmm. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir autant de Québécois qui ne comprennent pas ça, qui vont nous ramener à la case départ parce qu'ils pensent que c'est pas vrai ou n'importe quoi, mais des grandes organisations sportives qui perdent des millions. On voit les games de tennis présentement, tout le monde a son masque devant les micros. C'est gros là, à comparer d'une petite pensée québécoise. Là. Puis tous ceux-là comprennent, puis nos Québécois comprennent pas. Ça m'attriste beaucoup.
Ben merci beaucoup. Donc, oui, vous vouliez rajouter, Michel?
Non, j'ai peur de retourner à la case départ de mars. Ça maîtrise bien gros.
Merci, Michel. Christian Jacob est microbiologiste. C'est le président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonjour, M. Jacob.
Bonjour.
Est-ce qu'on risque de retourner à la case départ si effectivement il n'y a pas un assez grand nombre de Québécois là, qui se conforment à ces dernières supplications? Là, je pense qu'ils sont à veille de se mettre à genoux, là, tout le monde au gouvernement, que ce soit Legault ou Christian Dubé. Là, je pense qu'ils ne savent plus comment le demander. Là, on a quand même, hein, avez-vous cette impression-là, vous aussi?
Bien, la voie est tracée, c'est certain. Là, on voit une certaine augmentation dans les derniers jours, les dernières semaines. Les conditions étaient très bonnes là dans la population pour qu'on puisse prévenir jusqu'à un certain point plusieurs cas d'infection parce qu'on était beaucoup à l'extérieur. Là, les conditions pour qu'on soit capable de contrôler la propagation du virus sont de moins en moins bonnes avec le retour à l'école, avec les températures qui sont moins clémentes, avec les différentes festivités qui s'en viennent dans les prochains mois. Donc, c'est sûr qu'on peut pas... voyant qu'on s'en va vers une augmentation, on ne peut pas continuer à juste faire ce qu'on fait là parce que le taux de reproduction de base du virus là, qui est au-dessus de 1 en ce moment, qui doit être autour de 1,3, 1,4, ben, s'il reste au-dessus de 1, ben, ça veut dire que le nombre de cas augmente, que le nombre d'hospitalisations va augmenter, que le nombre de décès vont augmenter. Il n'y a aucune raison pour que ça s'abaisse par la suite. Donc, il faut faire de quoi? Il faut le faire maintenant. Je pense que c'est une bonne idée. Là. C'est une bonne chose que le gouvernement fasse ces rappels-là et dise que ça se peut que les règles se resserrent parce que ça sera nécessaire.
Mais on a l'impression que les gens ne les croient pas.
Ben c'est un petit peu particulier en effet de demander de resserrer les règles. Vous nous en avez parlé tantôt là, alors que le taux de mortalité semble bas, que les hospitalisations, bon, il y a quand même des urgences et des soins intensifs qui commencent à être congestionnés au Québec, mais tout de même le taux d'hospitalisation est beaucoup moins pire que ce qu'on a vécu par le passé. Mais il faut se rendre compte que, puis au printemps, on en parlait souvent, là, les actions qu'on pose aujourd'hui vont avoir un effet dans 2 ou 3 semaines. Mmh. Donc, l'inaction qu'on fait aujourd'hui va aussi avoir un effet dans 2 ou 3 semaines ou plus, là. Donc c'est ça. Si on veut pas se rendre compte dans un mois ou deux que on aurait donc dû faire ça plus tôt, ben faisons-le tout de suite. Puis ça va nous permettre de peut-être vivre avec un petit peu plus de liberté cet hiver.
On va essayer, Monsieur Jacob, d'aider nos auditeurs à se poser les bonnes questions, à savoir parce que beaucoup de gens m'écrivent en ce moment puis ils me disent ok mais moi comment je sais là, qu'est-ce qui est nécessaire, pas nécessaire, essentiel ou non, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans le fond, juste rappeler là, peut-être ce qu'il faut être considéré en fin de semaine là, pour les rassemblements.
Ben dans le fond le point principal là qui est à la base de tout, c'est de limiter les contacts de proximité prolongés. Puis, dans le fond, de limiter les situations où ces contacts-là peuvent se présenter aussi. Parce que des fois, on rentre à quelque part avec plein de bonnes intentions dans un party ou peu importe. Puis, plus que la journée avance ou plus que la soirée avance et les consommations avancent, ben moins on fait attention. Donc, d'éviter les situations où des contacts prolongés avec beaucoup de gens peuvent se présenter, ben il faut essayer de limiter ça. C'est pour ça l'appel du gouvernement de limiter justement les parties de famille et les rassemblements.
Mais limiter, je pense que ça marche pas de dire limiter. Je pense que limiter, ben, là, ça devient au goût. Là. Parce que les gens comprennent limiter, puis ils se disent, OK, mais ça veut dire, j'ai-tu le droit de voir ma famille qui habite, mettons, quelqu'un de Montréal qui habite à Laval? Ils ont-tu le droit ou ils n'ont pas le droit?
Est-ce qu'ils ont le droit? Oui, selon les règles qui sont écrites. Est-ce qu'ils devraient le faire? Ben là, c'est à évaluer. Est-ce que c'est une rencontre qui va se faire dans un milieu intérieur qui est très petit et qui ne permet pas de maintenir une distance respectable? Ben là, je reconsidérerais ça. Est-ce que c'est une rencontre familiale un après-midi entre 8 personnes puis qu'on peut faire ça dehors? Ben là, je vois beaucoup moins de problèmes parce qu'à l'extérieur, la transmission est beaucoup moins facile étant donné le volume d'air. Puis, dans le fond, le virus ne s'accumule pas. Puis, dans le fond, c'est une ventilation qui est parfaite à l'extérieur. Donc, les chances de se transmettre le virus sont beaucoup moins. L'espace est plus grand aussi.
Oui, mais je comprends.
Donc, considérer seront la situation.
En même temps, Christian Jacob, vous êtes microbiologiste. Moi, je comprends les gens d'être mêlés quand ils entendent le ministre de la Santé dire « Si vous voulez aller au restaurant en couple, vous pouvez y aller. » En même temps, chez vous, restez juste dans votre bulle. Évitez les amis puis la famille. Là, on se dit, voyons, c'est mêlant, là, ça. Là.
Bien, c'est sûr qu'il y a des obligations, il y a des recommandations, il y a des paliers différents dans les différentes régions, mais je pense quand même qu'il faut regarder chacune des activités qui vont avoir à venir à travers le prisme de la pandémie, puis se demander, est-ce que je me mets dans une situation qui est propice à la propagation du virus entre une ou plusieurs personnes?
Mais moi, pour moi, aller au restaurant, je vous avoue que, je sais pas, votre opinion là-dessus, est-ce que aller au restaurant, pour vous, c'est une activité sécuritaire, plus sécuritaire que recevoir, mettons, ma tante Germaine à la maison?
Aller au restaurant avec la même personne?
Oui. Ou avec, oui, voilà. Ben, en couple, mettons.
Dans le fond, les restaurants commencent à être bien rodés, excusez-moi l'expression. C'est dans un espace relativement public. Là, les mesures sont mises en place pour que les distanciations puissent être respectées. Dans une maison, dans le privé, des fois, c'est plus difficile de les faire respecter. Des fois, il y a des gens qui sont moins interpellés, disons, par l'urgence de la situation. Donc oui, peut-être que dans un restaurant, c'est plus approprié puis qu'il y a plus de chances que les contacts soient limités que dans un milieu privé. Oui, peut-être.
Eh ben moi, c'est bizarre, j'ai de la misère à comprendre ça. Je trouve que notre maison, on contrôle plus notre environnement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dirait rester chez vous et qu'on aurait plus de facilité
ben,
à dire...
Oui, avec votre bulle, avec votre famille, mais si vous invitez du monde chez vous...
Ben moi, mes amis, s'ils viennent chez nous, là, ils respectent ce que je leur dis. Là. Si je dis excuse, oui, ça te dérangerait-tu de pas toucher à telle affaire parce, à cause du virus? Il me semble qu'ils vont le faire, là.
Oui, absolument. Il y a des,
alors qu'au restaurant,
des groupes d'amis ou des familles que ça va se faire naturellement, puis que tout le monde comprend bien l'urgence de la situation, puis comprend bien l'importance de respecter les mesures, mais c'est pas donné à tout le monde. Si c'est pas donné à tout le monde, si on est dans un environnement comme un restaurant où eux, ils veulent que ça soit respecté parce qu'ils veulent rester ouverts, puis c'est leur image à quelque part qui est sur la ligne. Ils ont des plexiglas partout, il y a des indications au sol pour respecter le 2 mètres.
Ouais.
Il y a un nombre maximal de personnes autour de la table. Ben même les personnes qui sont moins convaincus par la mise en place des mesures, ben vont se retrouver à les respecter parce qu'ils sont mis en place par le restaurant lui-même. Mmh. Donc c'est là que je dis que peut-être dans certains cas que de sortir dans un restaurant peut peut-être être une bonne idée.
Ah, ben c'est pour ça que je pense qu'on a surtout peur que les restaurateurs ferment leurs portes. Là, j'ai Chantal qui m'écrit, qui dit qu'elle est propriétaire d'un petit resto à la campagne. Présentement, j'ai 14 places max. C'est juste pour payer mes comptes. Et là, si vous demandez aux gens d'éviter les restos, vous allez déclarer notre mort. Je comprends tout à fait son point de vue à Chantal. En même temps, j'ai quelqu'un là, qui m'écrit, qui veut rester, qui veut pas que je dise son nom. Appelons-le Max. Lui, il travaille dans un grand restaurant de Montréal, une place là à musique, puis où l'alcool coule à flot, où il y a beaucoup, un endroit très apprécié des jeunes clientèle. Il dit qu'il a été testé positif à la COVID et que il dit tout le monde l'a attrapé au resto. Fait que comme tout le monde l'avait, ils n'ont pas fermé. Moi, sincèrement, je connais le resto. Je sais qu'il... Je trouve ça épouvantable.
Absolument.
Et comme cliente, je veux savoir si le serveur qui s'en vient quand même, qu'il y aurait un plexiglas, si tu as eu la COVID puis que tu es contagieux, je veux le savoir. C'est ça là, qui m'apparaît un peu complexe là, et qui fait que les gens se disent, voyons donc, c'est tellement à géométrie variable.
Ben oui, mais en même temps, là, il y a un problème au niveau de ce restaurant-là. C'est pas le fait du restaurant qui est un problème, c'est un problème de gestion, clairement, là, de la situation qui est hautement problématique.
Et là, j'ai écrit à cet auditeur qui me dit, je lui ai demandé, ben, avez-vous appelé le 3-1, puis dites incognito. Il dit, je veux pas de trouble avec mon patron. Je comprends, là. À un moment donné, on s'en sortira pas, là, si...
Ben, je pense que ce genre de situation-là doit être déclaré, en effet, là, parce que c'est hautement problématique. Ben... Dans le fond, les situations où il y a beaucoup d'infections, là, il y a eu un cas d'une chorale dans l'État de Washington, 52 personnes qui ont été déclarées positives, une conférence sur le leadership, je pense que c'était à Boston ou au Massachusetts, une centaine de personnes qui ont été déclarées positives, différents rassemblements religieux aussi qui ont causé problème, des personnes positives, des fois qu'ils le savaient, puis qui se présentaient quand même
Mais voilà, et là, on en est rendu là. Exact, vous avez raison. Monsieur Jacob, là, c'est rendu que les gens le savent qu'ils sont positifs, mais ils le disent pas. pour pas que ça ait un impact dans leur environnement, soit au travail ou dans leur environnement personnel.
Ben ça, c'est absolument, c'est hautement problématique et c'est ça qui nous empêche d'avancer jusqu'à un certain point parce que il y a beaucoup de monde qui sont très bien intentionnés, qui font bien les choses, puis que même qui en font plus que le client demande. Puis une certaine proportion de la population se foutent un peu des règles qui sont en place et viennent jusqu'à un certain point miner l'avancement qu'on peut avoir fait pour la population qui se plie aux règles. Donc c'est problématique, faut faire avec, par exemple, là, parce que
effectivement.
Une portion de la population là va continuer d'exister, mais l'idée c'est de faire le maximum qu'on peut faire tout en gardant une certaine capacité à vivre une normalité aussi normale que possible.
Ouais. J'ai un cas pour vous.
S'empêcher d'y aller vers le confinement, mais bon. On fait ce qu'on peut.
Ouais, c'est ça. En général, c'est ça qu'on dit. Restez avec nous, Christian Jacob, microbiologiste, oui. Président de l'Association des microbiologistes du Québec. On est chanceux d'avoir M. Jacob avec nous. Il va être là après la pause. Si jamais vous avez des questions, là, vous gênez pas pour lui poser en ce qui concerne le virus. Marie-Christine m'écrit qu'elle est allée souper au restaurant. Je vais taire le nom du resto. Le serveur a été déclaré positif à la COVID-19 trois jours plus tard. Comment l'a-t-elle su? Le restaurant l'a appelé 9 jours après son souper. Imaginez-vous donc. Elle dit une chance qu'elle n'était pas positive car elle aurait contaminé tout le monde à son travail et elle travaille dans une pharmacie. Voyez-vous comment ça marche? Ça marche demain. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous respecter la directive qui dit, s'il vous plaît, restez donc chez vous, dans votre bulle? Mais si vous voulez aller au restaurant en couple, ça c'est correct. Comprenez-vous ça? Moi, je pose des questions. Là. Je dis pas qu'il faut pas y aller au restaurant. Je pose des questions. 514-790-9850. Il y a Lorraine qui m'écrit, puis je veux vous le lire parce que je trouve ça intéressant ce qu'elle me dit, même si je suis pas d'accord avec elle. Elle me dit ce matin, vous aidez pas la cause, vous questionnez les directives du gouvernement. Puis il y a déjà assez de monde qui ont de la misère à les suivre. Si vous devriez dissuader les gens. Lorraine, moi, comme je l'ai dit, je suis pas là, je suis pas le porte-parole du gouvernement. Je suis pas payée par M. Dubé puis par le gouvernement pour répéter ad nauseam leurs directives. Si c'est pas clair, il faut dire que c'est pas clair, puis ça va les aider à clarifier. Fait que oui, on questionne les directives du gouvernement. Puis moi, je veux savoir pourquoi on nous dit continuez d'envoyer vos enfants à l'école, continuez de faire vos activités, mais restez chez vous. Il y a comme quelque chose là que je veux juste savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans le fond, là? Faut-tu tout annuler vraiment jusqu'à l'action de grâce? C'est pas rien de demander ça au monde, là. Puis en même temps, on nous dit vous pouvez peut-être aller aux pommes parce que comme si c'est dehors, mais gardez vos distances. Là, ça devient mêlant, là. Tu sais, à un moment donné, c'est ouf. Où se situe le gros bon sens là-dedans? Oui, on s'imagine que tout le monde devrait l'exercer, mais comme c'est pas le cas, je sais plus. Moi, je sais plus comment on va y arriver. Josiane, vous?
Ben moi, j'ai décidé de pas aller voir ma mère cette fin de semaine.
OK. Fait que vous avez pris au pied de la lettre la recommandation de Christian Dubé puis de François Legault.
Oui, parce que je me dis, tout le monde se dit, c'est juste moi qui vais le faire. Mm-hmm. Ben, si tout le monde se dit ça, ben ça fait tout le monde qui respecte pas les règles.
Mm-hmm. Puis votre maman, elle a quel âge, votre maman?
Elle aimerait pas que je le divulgue, là. Mais
est-ce que vous craignez pour sa santé? Est-ce que vous pensez qu'elle risque, elle est à risque?
Oui, c'est voilà. Ça. Je voudrais pas qu'elle l'attrape. Si elle l'attrape, d'après moi, ça va être difficile pour elle.
Ben ouais, je comprends tout à fait. Merci, Josiane. Merci bien. Alain, bonjour. Est-ce que vous avez l'intention de rester chez vous en fin de semaine?
Moi, Isabelle, je vais continuer à faire ce que je fais depuis l'imposition du masque. Je vais laver mes mains, je vais rester à 2 mètres. Mais moi, personnellement, je crois pas que ce soit la faute au monde qui font des parties que le virus circule autant. C'est tout à fait normal. Écoute, depuis qu'on a été confinés depuis le début de l'été, le monde a repris leurs choses normalement. Et malheureusement, le virus, il va circuler dans la population. Uh-huh. Et puis, tout ce que le monde... je pense que le gouvernement, il cherche un peu un bouc émissaire. Si il y a une augmentation de mortalité, il je vais mettre ça, tout ça sur la population, puis ils vont dire que c'est la population qui n'ont pas écouté les consignes, puis que nous, ben, c'est notre faute, on a fait des parties, puis on n'a pas fait attention, mais...
on vous l'avait dit, mais vous n'avez pas été docile, genre.
C'est ça. Ouais. Le gouvernement, ben, c'est pour ça qu'ils sont aussi mêlés, parce que ils ont pas pu, ils ont peur de perdre le contrôle dans le système de santé. Mmh. Donc, ils l'ont déjà perdu la première fois. Mmh. Et puis, ça va être nous le bouc émissaire.
Oui, merci Alain. En même temps, moi, sincèrement, je pense pas qu'ils sont de mauvaise foi. Sincèrement, là, moi, je pense pas que le gouvernement du Québec ait de mauvaise foi là-dedans. Je pense qu'ils essayent vraiment de faire du mieux possible puis qu'ils ont de la misère à contrôler aussi. Même si je pense qu'il faut quand même leur dire, là, jusqu'à maintenant, la situation reste sous contrôle dans les hôpitaux. Là. C'est pas la Bérézina comme au plein cœur de la première vague. Je pense que c'est bon de rappeler ça. En même temps, tu sais, quand j'entends dire les gens font des parties, ils nous ont jamais dit, dans le fond, au moment là, du déconfinement, ils n'ont jamais dit... Hey, ça y est, là, c'est fini. Vous pouvez recommencer comme avant. Faites des parties, invitez-vous. Ça n'a jamais été ça, là. Ça a juste été. La preuve, c'est qu'il y a encore des gens qui vont être en télétravail jusqu'à 21. Là, le mot se passe, là, puis on aura l'occasion d'en parler sans doute la semaine prochaine, plus du télétravail qui a été reporté pour plusieurs mois. Donc, on est loin d'être complètement déconfiné, là, si vous voulez. Puis moi, je peux vous dire qu'avec tous les travaux en fin de semaine, moi, être confiné pas mal à Verdun parce que je pourrais pas prendre ni la 40, ni la 15, ni aller au centre-ville de Montréal, mais ça, c'est un autre dossier. On est avec nous, Christian Jacob. On va conclure avec notre microbiologiste parce que j'ai une question de Joanne qui dit que elle est allée ce matin passer un test d'anticorps chez Biron. Je trouve ça intéressant, sa question. Elle dit, je crois que j'ai attrapé la COVID en mars, au moment où on testait seulement les retours de voyage. Qu'est-ce qu'on sait de ces tests d'anticorps au moment où on se parle, Christian Jacob?
Oui, ben dans le fond, le test d'anticorps, ce qui est important de savoir par rapport au test par PCR, qui est le test utilisé par par tous les gouvernements, en fait, là, c'est que le test PCR cherche à détecter la présence de l'ARN du virus, donc du code génétique. Donc, ça prend le virus présent. Puis le test d'anticorps, ben, il teste si vous avez des anticorps présents dans le sang, c'est-à-dire est-ce que vous avez été en contact avec le virus et est-ce qu'il vous reste des anticorps. On sait que il y a beaucoup, beaucoup de ces tests-là qui ont été mis sur le marché avec des taux d'efficacité très, très variables. Il y en a qui sont pas très, très spécifiques, qui vont détecter des coronavirus qui sont liés à des rhumes classiques et non pas au SARS-CoV-2. Donc, il y en a qui sont problématiques. Il y en a d'autres qui ont quand même une bonne spécificité puis une bonne sensibilité. Là, par contre, ce qu'on sait pas, c'est est-ce que une personne normale va développer une réaction immunitaire au virus assez importante pour qu'on détecte encore la présence de ces anticorps-là après 6 mois. Okay. Ça, c'est de l'information qu'on n'a pas. On sait que c'est possible parce que les données qu'on a jusqu'à présent sont à peu près de ça, 6 mois. Okay. Donc, on sait que chez certains patients, on est encore capable de les détecter, mais on ne sait pas si c'est vrai en général dans la population ou si c'est peut-être, je sais pas moi, 10% des personnes chez qui c'est encore détectable. Donc, il y a encore un certain flou autour de ça. Par contre, s'ils détectent la présence d'anticorps et que leurs tests ils ont démontré qu'il y avait une bonne spécificité, ben ça devrait vouloir dire que cette personne-là a été exposée au virus.
Mmh. Et donc, elle serait donc protégée, vous pensez? Est-ce qu'on en sait plus?
Pas nécessairement. C'est ça. Il y a des études qui ont été faites chez les animaux. On a des données fragmentaires chez l'homme aussi. On a des exemples où le virus a pu réinfecter une personne, mais avec des symptômes moins importants. Ça, on le sait parce qu'on a vu qu'il y a eu deux virus différents. Là, avec l'accumulation de mutations, on est capable de démontrer que c'est deux événements séparés et non pas une même infection qui s'est prolongée. Donc, on sait que c'est possible la réinfection. Pour l'instant, ça a l'air d'être avec moins de symptômes, mais il y a certainement un certain niveau de protection. Là. Du moins, ça serait logique qu'il y en ait un qui se garde avec le temps.
Vous dites, on sait aujourd'hui que c'est deux virus différents?
Chez certaines personnes qui ont eu des symptômes à deux moments différents, on sait que c'est pas
que c'est le même virus qui a muté ou c'est deux
oui,
virus
c'est
vraiment à
bord? Non, non, non.
Okay,
c'est le même virus.
Parce que là, vous m'appreniez quelque chose que je savais pas
non.
du tout. OK. Là, s'il y a un autre virus en plus, là, je pense que ça nous achèverait. Là.
Ça veut pas dire que c'est deux souches de virus qui ont des capacités différentes. Là,
c'est le même, mais il a muté, là, ce qu'on s'était déjà dit.
Ouais. Des mutations qui sont peut-être absolument silencieuses et qui n'ont aucun effet sur sa virulence ou sa pathogénicité ou peu importe. Là. Quand on dit que le virus mute, c'est normal. Là.
Ça vaut-tu la peine de passer ce genre de test d'anticorps ou ça sert finalement pas grand-chose vu qu'on est peut-être quand même sujet à l'attraper à nouveau si on l'a déjà eu?
Ben c'est ça. C'est limité comme utilité parce que de toute façon, si on a déjà attrapé le virus, il faut continuer de faire attention parce que c'est possible qu'on le réattrape et si on le réattrape, mais on demeure contagieux fort probablement quand même.
Ouais.
Donc, étant dans un flou un petit peu à ce niveau-là, parce qu'on a, comme je vous le rappelle, là, on n'a pas de données pour plus que 6 ou 7 mois dans la population. Donc, n'ayant pas l'information, il faut demeurer prudent.
Voilà. Ben merci beaucoup, Christian Jacob, microbiologiste, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Une nouvelle qui vient de sortir, le nombre de cas de COVID-19 a dépassé le cap des 70 000 au Québec aujourd'hui. On parle donc de 637 nouveaux cas. Ce sont des chiffres du ministère de la Santé. Et ça s'est passé au cours des dernières 24 heures, bien sûr. Le nombre d'hospitalisations, c'est ça qui nous intéresse souvent, là, a fait un bond de 15 comparativement à la veille. Et il y aurait eu également 2 décès. On va s'arrêter ici. Bon, on va changer de sujet par rapport à la COVID. On va parler de bouffe. Il est comme une demi-heure avant l'heure du lunch. Je vais vous demander quand même, tout est relié, combien vous dépensez de plus en épicerie à chaque semaine? Parce que c'est clair que depuis les derniers mois, ça a augmenté, mais depuis les dernières années, notre coût d'épicerie a fait un bond incroyable. On va vous dire de combien tout de suite après.
Dans la cheminée, je reviens chez nous. Si le fait du soleil à Paris, il en fait partout.